Je suis ravi ce soir d'accueillir Fanny Bicard et Stéphane Edon, ancienne ESSEC. Merci d'être avec nous ce soir. Fanny Bicard est diplômée de ESSEC et la SFAF, ainsi que titulaire d'une maîtrise de droit des affaires et ancienne auditrice du Collège des hautes études d'environnement et de développement durable. Elle est présidente d'Alda Equity depuis 2007, une société de gestion de fonds d'investissement dont le nom coté ayant inventé le terme et le concept d'investissement à l'impact, utile au collectif tout en recherchant un rendement financier de marché. Fanny Bicard a notamment été directrice des opérations financières de Wendel ainsi que directrice des Fusions and Acquisitions du groupe Danone pour l'Europe de l'Est et de l'Ouest et de l'Amérique du Nord. Elle a commencé sa vie professionnelle dans le conseil en Fusion Acquisitions chez Rothschild et Co. Merci Fanny d'être avec nous. Et on a Stéphane Edon. Il est leader dans le domaine de ESG et de la finance durable, spécialisé dans le immobilier de santé. En tant que responsable ESG chez Mosaic Asset Management, il pilote la stratégie du fonds Mosaic Sustainable Healthcare Fund. Il combine son expertise en gestion d'actifs, en analyse des données et environnement opérationnel de santé pour obtenir un impact environnemental et social mesurable. Actif aussi au sein du club des anciens élèves d'ESSEC, pour le développement durable, où il co-dirige des initiatives visant à encourager l'investissement responsable. Il est largement reconnu pour avoir intégré des normes de durabilité élevées et des innovations pratiques qui améliorent les performances écologiques et la qualité de vie du personnel et des résidents. Merci à vous deux d'être avec nous ce soir pour parler des entreprises et leur rôle dans la société et plus particulièrement la notion de transition juste. Avant de passer aux questions, pourriez-vous expliquer un petit peu plus ou brièvement les raisons qui ont motivé vos choix de carrière.
Merci Stéphane de votre invitation. Merci à chacun de vous de nous écouter ce soir. Je ne sais pas si c'est obligatoire ou volontaire. En tout cas, je suis heureuse et un peu émue de retrouver cet amphithéâtre et d'être avec vous ce soir. Moi, je fais partie de celles et ceux qui ont toujours eu la vision du fait qu'un jour, je serai âgée, que je regarderai ma vie, que peut-être je devrais en parler à quelqu'un et que j'avais envie d'être fière de ce que j'aurais construit. Deuxièmement, pour moi, le collectif est extrêmement important. Et finalement, j'aime pas tellement cette notion de sens de la vie ou sens de l'activité professionnelle, mais finalement, je trouve pas tellement d'autres mots qui veuillent dire ça. En tout cas, dans la durée, je vois à quel point je trouve du plaisir et du sens dans une action au service du collectif et de plus en plus de l'enjeu de notre communauté de destin, puisque ça devient un enjeu majeur au regard des dérèglements environnementaux, notamment. Qui déchire la planète aujourd'hui, et puis une colère qui monte et qui porte au pouvoir des gouvernements populistes avec tout ce que ça peut entraîner. Donc dans ce contexte, qui n'était pas encore tout à fait le cas à l'époque, mais en tout cas, j'avais déjà cette ambition de contribuer au collectif. Mais en fait, je me suis dit que j'allais faire de la politique, et ceci étant, j'ai voulu trouver les moyens d'organiser mon indépendance financière et donc de pouvoir défendre les projets qui me tenaient à cœur de façon libre au risque de ne pas être réélu. Et c'est pour ça que j'ai commencé ma vie professionnelle sur des sujets, en allant vers des sujets business. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait l'idée que travailler dans la banque d'affaires, c'était là qu'on gagnait beaucoup d'argent. Il n'y avait pas encore le private equity, ça n'existait pas. Et c'est comme ça, essentiellement, que j'ai commencé ma vie professionnelle chez Rothschild. Et ensuite, à un moment, je me suis effectivement engagée en politique. Ce n'était pas du tout un beau moment pour moi, parce que, alors là, pardon, on arrive dans une situation un peu dramatique, mais mon père était très malade, il avait une maladie dont il ne pourrait pas guérir. Et c'était compliqué de combiner la vie d'analyste chez Rothschild, où je vous assure qu'on travaillait beaucoup, l'accompagnement d'une personne en fin de vie à laquelle j'étais immensément attachée, et d'être maire d'une ville de province à 1 heure de Paris. Et en plus du fait que, je ne vais pas entrer non plus dans trop de détails parce que ce n'est pas notre sujet ce soir, mais j'étais en très profond décalage avec les personnes qui m'entouraient sur cette liste pour les élections municipales. Et donc je me suis dit que c'était finalement pas un projet pour moi et que je le ferais différemment. Ou, enfin bon, j'ai continué sur ce chemin. Et à un moment, effectivement, quand je dirigeais les opérations financières de Wendel, que vous ne connaissez peut-être pas, c'est une structure d'investissement qui est assez importante en taille en fait, sur le marché français maintenant et bon, qui a un certain nombre de particularités. Et à l'époque, le DG de la structure a eu des pratiques qui n'étaient pas très éthiques. Moi, j'ai grandi dans une famille avec des valeurs fortes et je me suis sentie en décalage. Et j'ai ressenti le besoin d'avoir une action à côté de mon activité professionnelle, utile donc au collectif. Je me suis engagée sur des questions de promotion de la diversité. J'ai aidé une association qui s'appelle Mosaïque RH, qui fait un travail remarquable, qui est devenue leader dans l'accès à l'emploi aujourd'hui des personnes potentiellement objets de discrimination et notamment des personnes issues de la diversité. Et ça m'a donné envie de créer un fonds qui financerait des projets dirigés par des personnes issues de la diversité. Et sur ce chemin, il s'est passé un certain nombre de choses. Pardon, j'ai déjà été très longue, mais ça a conduit à ce projet Alter Equity, dont je vous reparlerai peut-être un petit peu, mais là, je crois que j'ai déjà été très, très longue.
Peut-être un mot.
Oui, déjà, merci Stéphane de nous avoir invités ce soir. Bonjour à tous. Je suis toujours ravi de venir ici à l'ESSEC. C'est une institution pour laquelle je suis assez investi et que j'aime, tout simplement. Pour répondre à la question, si je me souviens bien de la question, la dimension. Moi, j'ai aucun mérite d'être engagé parce que j'aurais une appétence sociale et sociétale. Donc, pour moi, la santé, c'est toujours le sujet qui m'a intéressé. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis présenté comme... j'ai bien entendu comme un leader de la finance, mais ce leadership, il doit être assez récent parce qu'il a 3 ans et j'ai fait toute ma carrière dans la santé, au plus près des gens. Et donc, j'ai toujours eu cette volonté de participer. Je crois que ça nous unit avec Fanny quand je l'entends parler de collaboration, de collectif, d'être partie prenante, moi aussi, dans ce changement, dans le modèle. Et quand je dis changement, c'est pas passer du négatif au positif, c'est dans la continuité d'un progrès, du vivre ensemble, et réfléchir avec les autres, ou être actif auprès des autres, des plus vulnérables, dans mon cas. Et donc très très tôt, à votre âge, à peu près, je savais que je serais dans la partie sociale, ou de santé toute ma carrière. Et donc je m'y suis investi. J'ai fait plutôt 20 ans du côté des opérateurs, c'est-à-dire les gestionnaires de cliniques, d'hôpitaux, de maisons de retraite, etc. J'étais plutôt dans les directions médicales. Et ensuite, voilà, il y a 3 ans, j'ai eu cette opportunité, eu égard au changement du monde dont on va parler ce soir, que la dimension environnementale, sociale, et la réflexion sur les gouvernances sont intriquement en train de rentrer dans les mindsets des gouvernances des fonds, par exemple, et qu'ils avaient besoin de vie réelle pour faire venir des gens comme moi, je ne suis pas le seul, opérateur, pour réfléchir ensemble à comment on peut flécher de manière positive ou du moins de manière constructive les capitaux vers le changement et gérer le risque qui s'annonce devant nous. Voilà.
Merci Stéphane, et on va continuer avec toi, avec la première question. Quelle est la gouvernance, alors vraiment un petit peu macro, quelle est la gouvernance équitable pour gérer la transition et comment définir le succès d'une transition équitable?
Alors la question est préparée, donc j'y ai réfléchi, et comme je te disais tout à l'heure Stéphane, c'est une question qui est difficile à répondre en sachant de se dire c'est quoi une transition juste. Eu égard, finalement, il y a plusieurs définitions. Mais si on devait synthétiser la réponse, je pense qu'une transition juste, ça serait une transition qui n'oublie personne. Et donc, ça veut dire une transition qui permette à la fois de continuer à créer de la valeur, parce que sans valeur, il n'y a pas de redistribution, et sans redistribution, c'est la crise sociale évidente. Et d'un autre côté, c'est aussi une transition qui permet de diminuer ce qui aujourd'hui est observé, c'est-à-dire toutes ces externalités. On parle d'externalités négatives, mais bon, vous l'aurez compris, le changement climatique, la tension sociale, tu l'as évoqué, et ces modifications, même cette menace sur la démocratie, etc. Je pense qu'il faut prendre tous ces aspects de manière positive et de se dire, finalement, notre rôle à jouer à nous, c'est de se dire comment on construit le demain. Donc la transition juste, c'est une transition qui n'est pas une mise à plat de tout. Il ne faut pas renier toute cette histoire. Il faut être dans un continuum. Il faut continuer à faire du progrès. Il faut continuer à créer de la valeur. Il faut sans doute mieux la redistribuer. Et il faut aussi prendre en compte tous les enjeux à tous les niveaux de la société. Et c'est pour ça, d'avoir une définition macro, c'est là où j'étais le plus mal à l'aise, parce que évidemment, l'impulsion doit être macro. Aujourd'hui, l'enjeu est mondial, mais la solution, elle sera locale. Voilà, parce qu'il n'y a pas une réponse unique pour tous les univers dans le monde. Pourquoi ? Parce que les cultures sont différentes, parce que les enjeux sont différents, parce que les spécificités sont multiples et qu'on n'a pas forcément soit les mêmes atouts, soit les mêmes contraintes à chaque endroit. Voilà. Mais à partir du moment où cette transition, et je finirai là-dessus, prend en compte toutes les parties prenantes, alors, à mon sens, elle est juste.
Alors, tu as dit, ouais, on peut pas parler de tous les pays ou dans toutes les sociétés avec les mêmes solutions, mais en même temps, on est dans un système. On est dans le système. Alors, en Europe, on a des pays. On en a parlé un petit peu de la visite en Asie. La grande question pour nous aussi, ici, comprendre et changer le monde, c'est quelles sont les responsabilités d'un pays comme la France ou les pays riches, développés, envers les pays en développement en matière de financement d'une transition juste. Parce qu'on ne peut plus être isolé. Ici, il faut collaborer, il faut se mettre dans un système. Alors, ton opinion sur cet aspect-là, quelles sont nos responsabilités comme pays développé, comme pays riche, vers les autres ?
Oui, alors, je crois que la réponse est dans la question. C'est, on est des pays riches, et pour cette transformation ou cette transition, comme tout changement, il va falloir de l'innovation, de la créativité et donc des capitaux. Et donc la responsabilité des pays les plus riches vis-à-vis des plus pauvres, et ben c'est cette capacité à investir, cette capacité à partager les solutions techniques, à partager les réflexions, à emmener le maximum, et aussi à pouvoir collaborer et entendre les pays les plus pauvres sur leurs propres solutions. Voilà. Donc le rôle des pays les plus riches, c'est de partager ce tas d'or, cette richesse, pour accompagner les pays les plus pauvres qui, en l'espèce, on l'a bien dit, ce qui leur manque énormément, c'est des moyens d'investissement pour accompagner à la fois des transitions technologiques, à la fois des adaptations d'infrastructures, mais aussi de la formation, mais aussi pour les nouveaux métiers, pour qu'il y ait le moins de dégâts collatéraux à la fois dans ces pays. Mais il ne faut pas oublier que on est sur un plan d'égalité, c'est que cette transformation elle va aussi impacter nous-mêmes, les pays riches, et on le voit bien que tout est corrélé. Et donc, les responsabilités vont être partagées.
Alors là, on va direct avec les exemples, peut-être. Fanny, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'entreprises avec vous avez financé, leur impact sur la société ou les sociétés ?
Oui, merci beaucoup. Peut-être en deux mots, rappeler la philosophie d'investissement du fonds que j'ai créé, qui s'appelle Alter Equity. Nous investissons dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. C'est ce qu'on appelle le private equity. Alors, je vous rappelle quelques éléments comme ça, un peu de base, parce que je ne sais pas encore votre culture vis-à-vis de ces éléments. Et nous investissons dans des entreprises petites, en taille. Hein, c'est ce qu'on appelle du venture capital. Des entreprises qui font entre 1 et 5-10 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui en général ne sont pas encore rentables, qui sont en très, très forte croissance, et on finance cette croissance. Donc ça, c'est le venture capital. Et nous, ce que nous avons de particulier, c'est que nous ne choisissons que des entreprises qui, par leur activité, sont utiles au collectif, sont utiles à l'intérêt général d'un point de vue social ou environnemental. Petit 1, donc activité utile au collectif. Petit 2, on exige de ces entreprises qu'elles progressent dans leurs pratiques de gestion, ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, RSE, vers plus de responsabilité, donc d'un double point de vue social et environnemental, et le tout en recherchant un rendement financier élevé, un rendement financier de marché, voire plus, à la fois pour attirer des souscripteurs, puisque sinon ils ne viennent pas, et aussi pour contribuer, alors là c'est un enjeu, on revient sur un enjeu politique, à démontrer qu'il est tout à fait possible d'être à la fois rentable et responsable et qu'il faut arrêter d'opposer les deux, ce qui était particulièrement le cas lorsque j'ai commencé de travailler sur ce sujet et qui le reste encore un petit peu aujourd'hui. Donc pour vous donner effectivement quelques exemples concrets, on a investi dans une société qui s'appelle par exemple Open Airlines, qui avait développé un logiciel et pas mal d'intelligence artificielle dans l'objectif de diminuer la consommation de kérosène des compagnies aériennes, qui est avec Blablacar. Alors, eux pensent qu'ils sont devenus premiers, peut-être qu'ils sont deuxièmes derrière Blablacar. En tout cas, c'est la première ou la deuxième entreprise en France ayant le plus gros impact en termes de décarbonation aujourd'hui, donc c'est colossal. Je rentre pas trop dans les détails. Donc, très gros impact d'éviction d'émissions de CO2 grâce à la réduction de la consommation de kérosène de 2 à 5% par les compagnies aériennes clientes. Et c'est un investissement sur lequel on a fait, nous, un multiple de notre investissement de plus de 10 fois. J'ai dit au fond qu'il a acheté qu'on ne communiquerait pas, donc je ne donne pas le chiffre exact, mais enfin, on a fait un très très beau rendement. Donc voilà, combinaison de beaucoup d'impact, éviction d'émissions de CO2 et beaucoup de rentabilité. J'ajoute que l'entreprise elle-même était devenue rentable. On a investi, c'est un peu particulier, dans une société Innovafeed, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est aussi, parce que c'est le cas d'Open Airlines, une pépite de la tech française qui, c'est pas très tech, élève des mouches. Elle élève des mouches, mais il y a un certain nombre de dimensions qui sont assez tech. Et alors, en tout cas, ils utilisent les larves des mouches qu'ils transforment en farine pour nourrir des poissons d'élevage au lieu d'utiliser, pour les nourrir, de la farine de poisson sauvage. Il faut à peu près 4 kilos de poisson sauvage pour produire 1 kilo de poisson d'élevage. Donc une grosse prédation sur la réserve de poisson. On parle de réserve halieutique, réserve de la mer. Et en plus, pour aller pêcher ces poissons, qui ne sont pas les bars et les sols, ni même les autres poissons un peu moins luxueux de votre poissonnier, ce sont des poissons absolument hideux qui sont dans les profondeurs et qu'on n'aurait pas du tout envie de manger. Mais en tout cas, pour aller les pêcher, les chalutiers raclent les fonds marins, et quand ils raclent les fonds marins, eh bien, ils laissent le CO2 que les océans ont capté repartir à la surface. Donc ça a aussi un impact à la fois de rupture de la chaîne alimentaire de l'écosystème, mais en plus d'émissions de CO2, qui est aussi une société où on a fait 400% de rendement, donc très très beau rendement sur l'opération. Et puis peut-être sur un sujet plus social, on a investi dans une société qui s'appelle TIL, qui travaille à la prévention des enjeux de santé mentale. La santé mentale, les enjeux de santé mentale, c'est un problème qui se développe dans la société et dans les entreprises. C'est devenu la première cause de congé maladie longue durée, donc c'est un vrai problème pour les entreprises qui cherchent à les prévenir. Et voilà, j'entre pas dans les détails. Donc vous voyez des exemples très très concrets sur des sujets complètement nouveaux qui n'existaient pas auparavant et qui vont avoir un impact considérable, soit unitairement, soit parce qu'ils rendent possible, en disruptant un sujet, en le mettant en haut de la pile de la préoccupation des dirigeants et en faisant, d'une certaine manière, changer le monde à une petite échelle, certes, mais de façon capable ensuite, dans la durée, de passer à l'échelle et de devenir énorme. Open Airlines, c'est 5,5 millions d'émissions de CO2 évitées pendant qu'on en était actionnaire. C'est près de 2% des émissions de la France en 2024. Donc c'est bien que ce soit une petite entreprise, compte tenu du fait que son activité est mondiale, l'impact est colossal. Voilà. Donc avec du private equity, y compris petit, en capital risque, on peut commencer à changer le monde.
Et on a on avait déjà, quand vous étiez ici avec Thierry Sibiot, on avait l'entrepreneuriat social qu'il a commencé. Et à mon avis, là maintenant, Yann Lepoudre, qui travaille dans l'entrepreneuriat, il peut aussi vous aider de créer des start-up, des nouveaux business avec un vrai impact social, environnemental. Et j'espère que vous avez ça aussi dans la tête quand vous commencez votre entreprise.
Il est vraiment une référence sur ces sujets, Thierry Sibiud. Oui.
Oui. Est-ce qu'il est vraiment possible de combiner ces impacts que vous avez parlé avec un rendement financier de marché où il faut abattre le capitalisme pour réussir la transition?
Alors nous, aujourd'hui, sur nos sessions, ce n'est pas un chiffre complètement public, mais il m'arrive d'en parler quand même, on est à un rendement, on parle de TRI, vous allez apprendre ça, je pense, cette année, de près de 30%. C'est vraiment très élevé. Et donc, oui, on peut atteindre ce rendement. Est-ce qu'il faut abattre le capitalisme? Bonne question, je me la pose presque quotidiennement. Personnellement, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres systèmes économiques aussi efficace que le capitalisme, mais je crois tout de même qu'il s'est un peu déréglé et qu'il faut le responsabiliser, le réguler, parce que là, on est vraiment en train de partir vers l'abîme.
On va rester juste un moment avec vous et votre entreprise. Est-ce que les démarches comme la vôtre souffriront? Est-ce qu'ils sont souffriront pour conduire la transition au grand jalon? Même Stéphane, si tu veux répondre à ces questions-là, est-ce que c'est assez?
Ben c'est vrai que c'est tout petit. Là, nous, on est en train de lever notre troisième fonds. On vise 180 millions. On a à peu près aujourd'hui 250 millions d'euros sous gestion. Et les entreprises, je l'évoquais, dans lesquelles nous intervenons, au capital desquelles nous investissons, sont toutes petites. Donc leur impact est a priori petit. Mais comme je l'évoquais aussi à l'instant, elles portent des solutions, elles portent des disruptions, elles portent des résultats. Qui sont en réalité impressionnants et qui permettent d'engager un changement. C'est-à-dire que nous les finançons dans leur phase d'amorçage, enfin un petit peu après ce qu'on appelle techniquement l'amorçage, mais ensuite elles vont être financées par des fonds plus gros et elles vont devenir beaucoup plus importantes. Il faut qu'elles aient commencé par naître et ensuite à se développer et été financées par des gens comme nous pour qu'elles puissent véritablement changer le monde en grande ampleur. Donc je pense que c'est absolument nécessaire, même si ça ne suffit pas. Il faut des réglementations. Il faut des changements de comportement, il faut des réglementations des entreprises, il faut des changements de comportement des personnes privées, il va falloir consommer moins, il va falloir consommer mieux. Par exemple, un paradoxe, 65% des Français sont éco-anxieux, mais en 2024, en moyenne, en France, on a acheté 42 vêtements chacun. Et évidemment, on en a acheté un grand nombre de ces 42 vêtements chez Chine ou chez Temo, et ce qui est un écocide. Enfin, je veux dire, ça entraîne des conséquences catastrophiques pour l'environnement. Je ne vais pas entrer dans les détails. C'est fabriqué par des esclaves ou plus ou moins en Chine. Donc, d'un point de vue sociétal, c'est pas du tout une bonne chose d'acheter chez Chine ou chez Temo. Je vous invite tous à arrêter de le faire. Donc, il va falloir changer nos manières de consommer, changer, ne plus avoir besoin d'accumuler comme on le fait, ne plus avoir besoin d'avoir la même voiture que celui de notre voisin. Ça, ce sont des changements importants pour permettre effectivement d'atteindre la neutralité carbone si on croit encore que c'est possible. Et moi, je fais partie des gens qui espèrent en tout cas que c'est possible et qui continuent de se battre. Je crois que le défaitisme n'est pas une option, la résignation n'est pas une option, il faut tous se battre. Et ça commence de cette manière-là. En plus de ça, il faut, je pense, en tant que salarié, faire savoir à son entreprise qu'on est très conscient et très vigilant vis-à-vis de ces sujets. Et je pense que vous, les jeunes diplômés particulièrement, vous avez entre les mains la possibilité de faire changer les entreprises parce qu'elles sont très sensible à cette capacité à attirer les meilleurs dont vous faites partie, à les conserver en les motivant. Et donc, montrer que vous êtes sensible à ces sujets, ça détermine le comportement des entreprises et donc ça change le monde. Donc nous, tout seuls, on ne le fait pas, on y contribue, mais vous, vous êtes en situation de le faire encore plus. Donc je vous y invite comme futur salarié, comme consommateur, comme électeur et puis demain comme dirigeant d'entreprise.
Stéphane, un mot aussi sur l'inspiration qu'on a parlé avant, peut-être, non ? Si ce n'est pas assez, peut-être d'une autre façon inspiré.
Oui, alors moi je fais partie d'une vieille industrie hein, qui est l'immobilier. Bon, je travaille pour un fonds qui fait 650 millions, donc qui a un impact relatif vu égard au secteur, mais qui a donc les moyens de contribuer. Moi je suis assez optimiste par rapport à ce qui se passe, dans le sens où, de toute façon, vous n'avez pas le choix, puisque l'histoire est écrite. Et que cette histoire a déjà commencé. Et que au-delà de ces nouvelles contraintes, parce qu'on parle beaucoup du changement climatique, on voit bien que le monde lui-même change ses équilibres, et face au changement de ses équilibres, on ne peut pas rester statique. Voilà. Donc typiquement, dans mon secteur, le paradigme d'une énergie pas chère, par exemple, et donc c'est pas un enjeu carbone qui a motivé, hein. Il y a des transitions opportunistes. Le prix de l'énergie a fait que le secteur a complètement modifié sa manière d'abord de construire. Donc il y a un effet collatéral de décarbonation, mais en parallèle, on a des bâtiments qui consomment moins, qui perdent moins en énergie et qui sont sur des impacts moindres en collatéral. Et de la même façon, sur la transformation des bâtiments en usage, qui sont les plus nombreux, évidemment, ça doit représenter 80% du parc, eux aussi, on travaille à les transformer, soit parce que, comme un fonds comme le mien, on a des convictions qu'on partage avec Fanny en pensant qu'il faut un impact pour le collectif et que c'est meilleur pour le collectif. Mais au-delà de ça, même si on n'a pas de conviction intrinsèque, on dirait ESG, de toute façon, cette transformation est en cours, puisque c'est un enjeu de compétition vis-à-vis des autres. Donc là où je suis assez optimiste, c'est que globalement, contrairement à des fois à la rumeur ambiante, je pense qu'on va de l'avant. Je pense que ce changement que vous allez vivre, hein, forcément, c'est un changement, c'est jamais facile à vivre, parce que nous, les plus vieux, on aime bien quand c'est stable. Il est en cours, il nous dépasse, et il faut s'y préparer. On le voit bien à travers le monde, et c'est là où je suis assez optimiste, et que entre ce qu'on nous rapporte et ce qui se passe, voyez-vous, la Chine, par exemple, qui n'est pas un exemple de démocratie, a une transformation opportuniste. Aujourd'hui, ils sont en train de devenir les leaders sur une énergie verte, ils sont en train de transformer leur modèle. Est-ce que c'est par rapport à une réflexion sur l'impact climatique ? Ce que je vais dire, ça n'engage que moi. Je pense que mon opinion ne représente pas tous les Chinois, évidemment, mais globalement, je ne pense pas que c'est la ligne directrice, mais elle est stratégique. C'est-à-dire que si on suit ce qui doit se passer, soit on disparaît tous, soit on passe et on transforme et on transitionne, et donc à la sortie, ils seront leaders. Voilà. Donc eux, ils ont pris le côté positif, et ils se sont dit, bah, très bien, on va se transformer, de toute façon, quoi qu'il arrive, on sera gagnant, gagnant, gagnant. Et je pense qu'il y a plein de parties dans le monde qui font comme ça. L'Europe reste un leader sur le sujet de la transformation. Elle réajuste un petit peu sa promotion, mais tout ne se passe pas par la réglementation. Hein. Aujourd'hui, les entreprises, on l'a vu sur les premiers rapports CSRD, alors tout ça, c'est des acronymes que vous apprendrez, et on ne fera pas ce soir, sinon on va endormir les derniers qui sont encore réveillés, mais la plupart des grandes entreprises qui ont commencé à faire leurs premiers rapports avec le changement de l'omnibus, et qui leur permettait finalement de ne pas faire de rapports, ont décidé de continuer. Pourquoi ? Parce que ça fait des lectures analytiques, ça permet d'être plus compétitif, ça permet de faire des économies de charges, c'est-à-dire c'est le fonctionnement d'une entreprise classique. Donc là où je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis, Fanny, c'est que cette transformation, elle crée de la valeur, elle crée du plus, elle crée du mieux vivre, elle crée tellement de choses positives qu'on a tous moyen de s'en saisir, et aujourd'hui, collectivement, même ceux qui n'étaient pas concernés par l'ESG commencent à se dire que ça vaut peut-être le coup d'aller à cette transformation, à cette innovation, à cette adaptation au changement, ce qui sera le principe de manager que vous serez, hein, sera de se dire être toujours en éveil, savoir analyser son présent et préparer son futur. Je pense qu'aujourd'hui, les analyses des grands patrons et des politiques se rendent compte que cette transformation, de toute façon, elle est écrite. Voilà. Alors, c'est comment on va l'appréhender. Les meilleurs s'en sortiront, les plus poussifs s'en sortiront moins. Moi, je suis confiant dans un secteur comme l'immobilier qui est plus poussif, je pense qu'il n'y a pas. Aujourd'hui, on voit un réel pushing d'innovation, une réelle recherche de transformation des modèles qui sont des facteurs de gagnants pour ceux qui se sont déjà engagés. Et bon, nous, on est un petit, mais il y a des grands aujourd'hui qui sont en train de transformer, comme Groupama, BNP, où on voit tout le real estate, donc l'immobilier, se transformer. Donc je suis assez confiant. En fait, vous allez onboarder sur une situation économique qui est en train de se transformer. Donc je vous invite à être des élèves studieux, de bien intégrer ces dimensions, puisque demain, je vous l'annonce, l'ESG va disparaître. Elle sera juste intégrée dans votre risk management, dans vos business models, dans tous les outils qui sont aujourd'hui. Je promeux moi aussi le capitalisme, parce qu'il a l'avantage de créer de la valeur. Aujourd'hui, sa maladie, c'est qu'il ne sait pas la redistribuer correctement, et ça, ce seront des enjeux sans doute politiques et démocratiques. Mais tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui va être infusé de toutes ces dimensions de changement à tous les niveaux. Donc, vous arrivez pas trop tard, puisque le kick-off a été lancé, mais vous allez être sur le bon moment pour accompagner cette transformation, voire, et ça, je vous y invite, l'accélérer au maximum, inspirer, pousser les portes, et je pense que vous serez les bienvenus.
Alors, tu as parlé de la responsabilité au collectif et que tout le monde va profiter. Comment pouvons-nous nous assurer que les voix des groupes marginalisés sont prises en compte dans la planification, dans cette transition ?
Comment ? C'est ce que j'avais dit en propos introductif. Hein. Je pense que cette transition juste sera réussie si toutes les parties prenantes sont entendues. Voilà. Et de toute façon, vu que les solutions sont locales, il faudra être en mesure d'entendre au plus près de la granularité. Sinon, vous ferez des changements qui ne seront pas adaptés au plus près des gens. Voilà. Typiquement, mon impact CO2 n'est pas bon, parce que je reviens d'Indonésie, mais on en a parlé. On voit ici, et en parallèle, j'anime un des clubs ESSEC Alumni, tu en as parlé. Et des fois, les solutions, c'est de se dire, on va faire moins. Alors, il y a apparemment une solution connexe, donc je te remercie, Fanny, d'avoir investi dedans. Mais on disait, voilà, il y a des grands noms qui disaient, il n'y aura plus que deux voyages maximum dans une vie en avion. Hein. Sauf que ces solutions que j'oserais dire de bon sens, mais trop simplistes, c'est le choix de pays comme le nôtre de dire, finalement, je condamne 280 millions d'Indonésiens qui vivent du tourisme. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont deux ressources principales, le nickel, qu'ils ont déjà mis à disposition des Chinois, et le tourisme. Donc les solutions simplistes ne seront pas les plus simples, vous l'aurez bien compris. Donc pour ne pas oublier toutes ces parties prenantes, il faut savoir les écouter. Et ça rejoint à nouveau ce que tu as dit, Fanny, c'est que cette transition, elle sera réussie que si elle est collaborative, c'est-à-dire de savoir entendre, de savoir collaborer, de savoir aller vers l'autre. Je finirai sur un exemple, puisque je pense que le pratico-pratique, c'est toujours utile. Toujours dans mon secteur sur l'immobilier, c'est facile, on crée de la valeur en louant des bâtiments et en les revendant plus cher. Voilà, donc, vous voyez, c'est, si vous voulez être dans un secteur où c'est un peu la flemme et la paresse, welcome. Ceci étant dit, c'était le modèle pendant longtemps. Et donc, quand vous étiez propriétaire, vous ne rencontriez pas votre locataire. Voilà. Et donc, vous avez des silos comme ça. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un mal pour un bien, parce qu'aujourd'hui, on voit dans les grands acteurs de l'immobilier l'obligation pour des propriétaires de murs d'aller rencontrer leurs locataires. Donc pour nous, ce sont des gestionnaires de santé dans des hôpitaux. Et donc nous, on les rencontre deux fois par an juste pour discuter, de se dire, bah, c'est quoi les solutions si on veut décarboner? C'est quoi les solutions si on veut réduire l'énergie? Quelles sont tes problématiques? Comment je peux flécher les capitaux? Comment on se distribue on a des clés de répartition sur les économies qu'on fait, etc., etc. Et je peux vous dire, ça change la vie des asset managers qui, longtemps, ne savaient pas qui était leur locataire. Et ça, vous voyez, c'est l'illustration de ce qui va se passer demain. Pour moi, j'en suis convaincu, c'est que les silos vont casser, on va réhumaniser les relations et les gens vont se revoir, se re-rencontrer, rediscuter d'un jour meilleur ensemble à une échelle qui est relative. Hein. La solution mondiale n'existe pas, il n'y aura pas un leader charismatique de la transition. Je pense que chacun d'entre nous va participer à cette transformation, va inspirer les autres et va collaborer avec les autres. Donc, ne pas réussir et pas oublier les parties prenantes, bah, il suffit d'aller les voir, leur tendre la main, les écouter. Et de toute façon, ça sera une création de valeur aussi dans vos propres décisions et dans vos propres orientations.
Quand on voit ce qui se passe au moment en Europe, mais aussi aux États-Unis, on a parlé de ça la semaine dernière avec notre intervenant. Est-ce qu'il faut parler d'un backlash concernant les questions de sustainability en Europe ou encore plus haut aux États-Unis ou dans le monde ?
Écoutez, moi je ne crois pas. on est quelques-uns, mais je ne crois pas au backlash. Je pense que c'est un effet, parce qu'il faut bien parler de quelque chose de négatif de manière médiatique. Je pense que c'est un peu plus nuancé. De toute façon, l'intelligence est nuance. Pour l'Europe, il n'y a pas réellement de backlash. Il y a un réajustement. Voilà. Il y avait un réajustement qui a été attendu. Par l'ensemble du monde économique, si vous voulez. Sur le sujet, il faut reconnaître au législateur qu'il a pris ses responsabilités le premier, mais c'est son rôle. Son rôle, c'est de protéger les citoyens. Et devant lui, il voit de nouvelles contraintes, de nouveaux risques, et donc il légifère. Il faut reconnaître que le package, on a parlé avec Fanny, je le trouvais trop parfait, c'est pas le mot qu'il faudrait employer, mais en tout cas il était très technique, un peu trop poussé, difficile à s'approprier. Donc aujourd'hui, ce que fait l'Europe, c'est qu'elle réajuste en disant bah, on va prendre plus de temps parce que pour les plus petits c'est plus difficile. Ça c'est pour l'Europe. Et donc aujourd'hui l'omnibus change pas grand chose, réajuste, mais à mon sens, c'est ma lecture, une timeline plus longue. Mais comme je l'ai dit en préambule, l'histoire est écrite. Donc les risques sont toujours les mêmes, le changement est toujours le même, les nouveaux ajustements économiques et géopolitiques sont toujours les mêmes. Donc on peut toujours s'évertuer comme un petit bonhomme avec une mèche blonde et refuser la réalité et de se dire drill, drill, drill. La réalité, elle n'est pas celle-là. Voilà. Et donc, où que ce soit, je pense qu'il faut être assez positif. Le recul aux États-Unis est relatif. Hein. Aujourd'hui, il y a des taxonomies qui sont en train de se créer dans des États américains. Alors, c'est peut-être pas les plus républicains, mais en tout cas, on voit bien que ce réalisme continue, hein, en particulier sur les États qui sont les plus impactés par les enjeux climatiques. Des taxonomies et des marchés carbone sont en train de se créer partout dans le monde. Aujourd'hui, la Chine a adopté la taxonomie européenne sur le modèle européen. Singapour, l'Indonésie. J'invite à regarder les pays africains qui aujourd'hui sont en train d'adopter les règles IFRSS de l'ISBB, hein, donc ça devient technique, mais sur l'accounting, aujourd'hui il y a 40 pays qui ont intégré la sustainability dans leur modèle. Oui, il y a un pays qui s'évertue, eu égard à son leader élu, à refuser une réalité, mais c'est pas parce qu'on est dans un déni à un endroit que le monde ne continue pas sur sa continuité. Donc ce backlash, il est relatif. Ce ralentissement en Europe était nécessaire, mais je vous invite à regarder. Fanny est une illustration des initiatives, mais même sur les grands acteurs, la poursuite d'une transformation, de la prise en compte de certains impacts, de la recherche de sobriété, parce que l'énergie est chère, parce que les coûts sont chers, et la prise en compte sociale. Donc il y a un continuum, un réajustement, je reste positif, on est sur la même route, rien n'a changé, tout ça, c'est tout le reste, c'est divertissement, et il faut pas se laisser empoisonner par une information qui est des fois juste une espèce de rhétorique étrange.
Fanny, un mot sur ça aussi.
Oui, moi je suis d'accord comme toujours avec Stéphane. Juste en un mot, backlash écologique, ce dont on parle, c'est le rejet d'action et de défense de la cause de la transition écologique. Pour lesquels ce serait pas complètement évident. Et pour moi, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de paradoxes. Le premier paradoxe, c'est que la situation n'a jamais été aussi grave sur le terrain du dérèglement environnemental. 2024, vous le savez, le climat s'est réchauffé de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, ce qui était l'objectif pour 2100, c'est-à-dire dans 75 ans, 76 ans. Alors les climatologues disent qu'il faut que ce dépassement ait été constaté pendant plusieurs années pour qu'on puisse effectivement parler de dépassement. La réalité, c'est que vu la trajectoire, personne n'a aucun doute sur le fait que si on ne considère pas qu'on l'a atteint l'année dernière, le 1,5, et ben, de toute façon, ça va arriver extrêmement rapidement et beaucoup plus rapidement que tout ce qui avait été prévu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une étude scientifique qui ne montre que le réchauffement et le dérèglement plus large climatique, environnemental, je voulais dire. Donc le dérèglement climatique, c'est-à-dire le réchauffement et le dérèglement environnemental, ce qui inclut aussi l'épuisement de la biodiversité, l'épuisement des autres sources, les pollutions, etc., est beaucoup plus grave et beaucoup plus rapide que tout ce qui avait été anticipé par les scientifiques. Donc, vous le savez, j'ai beaucoup hésité à vous le dire, mais en fait, je me suis dit que il vaut mieux que vous en soyez complètement conscient et que si vous devez prendre une gueule de bois, vous la preniez maintenant pour ensuite être en situation d'agir que plus tard. Donc voilà, la situation qu'on vous laisse, j'en suis bien désolée, et moi je me bats chaque jour, et Stéphane aussi, pour être un bon ancêtre. Je pense que c'est une bonne manière de se poser la question, puisque vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure. Mais la situation est très grave. Et le paradoxe, c'est qu'on a en face de nous un président des États-Unis qui est quand même le pays le plus puissant à l'échelle mondiale, qui fout en l'air ce truc-là, et pardon pour le gros mot, je ne vais pas rentrer dans les détails. En Europe, heureusement, la situation est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il y a un discours de rejet, il y a une crainte des politiques, de la montée des populismes, et donc de ne pas vouloir alimenter ce rejet. Et donc, il y a des réglementations en cours comme la directive Omnibus que tu évoquais, qui est donc la remise en cause d'un certain nombre de directives précédentes de la Commission européenne, et notamment CSRD, qui est ce que tu évoquais aussi sur les obligations de reporting des grands groupes, et d'autres sujets. Donc, il y a une remise en cause de ce qu'on a appelé le Green Deal, le pacte vert, qui était l'ambition de la Commission européenne à horizon 2050, d'organiser en Europe la neutralité en termes de d'émissions de CO2, et donc d'être le continent pionnier de la transition énergétique. Ça, il y a quand même un peu des vagues qui semblent aller contre ce projet, mais pour aller dans ton sens, je pense qu'il y a quand même une inertie pour l'essentiel qui va essayer de conserver cette démarche. En tout cas, c'est peut-être moins simple que ça ne l'a été il y a 5-6 ans, voilà, pendant le premier mandat de Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission. Et un autre paradoxe, c'est que les dirigeants français critiquent beaucoup la CSRD, donc cette réglementation européenne sur le reporting des entreprises, parce que ça leur a coûté très cher, je ne rentre pas dans les détails. Et du coup, ils jettent un peu le bébé avec l'eau du bain, la RSE, le développement durable. Et donc, ils ont un discours assez négatif sur ces sujets. Mais en fait, leurs entreprises continuent de progresser sur la thématique. Donc, il faut se méfier, comme tu le disais, du discours. La vraie tendance, c'est une tendance à la poursuite de ces sujets. Mais en même temps, je crois quand même qu'il faut rester... Il faut rester vigilant, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, vous avez une responsabilité particulière parce que ces dirigeants d'entreprise sont très sensibles à leur capacité à vous attirer. Donc en montrant que vous êtes sensible à ces sujets, eh bien vous les entraînez sur la bonne pente.
Merci Fanny. On va passer au Q&A dans un petit moment, mais juste avant ça, j'aimerais bien savoir quel conseil auriez-vous aimé recevoir du but de votre vie professionnelle, des professeurs d'ESSEC ou avant de partir. Vous pouvez partager un petit mot sur ça avant de...
Oui, avec grand plaisir. C'est pas une question facile, mais je pense que c'est intéressant de se poser très profondément la question de ses propres valeurs et de ce que l'on a envie de faire de sa vie et de construire son projet professionnel en conséquence. Et parce que quand on est très aligné avec ce qu'on est en train de faire, on est beaucoup plus puissant que si on est en train de cocher des cases et d'aller chez Goldman Sachs parce que c'est le truc chic dans tout le monde dont vous pensez que tout le monde vous admirera parce que vous serez chez Goldman Sachs. En réalité, le monde a changé, c'est plus compliqué que ça. Bien sûr, beaucoup de gens vous admireront si vous êtes chez Goldman Sachs, mais beaucoup de gens vous admireront si vous faites d'autres choses. Et peut-être que vous serez surtout beaucoup plus heureux si vous faites d'autres choses. Donc ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment s'interroger très profondément sur ses valeurs et ce qu'on a envie de faire de sa vie pour décider du parcours, sachant que, et ça c'est une chose qui a un peu changé par rapport à notre époque, parce que nous on est beaucoup plus vieux que vous, c'est que les passerelles sont beaucoup plus faciles, les trajectoires sont beaucoup moins rigides qu'elles ne l'étaient à une autre époque. Et puis alors un autre conseil, et c'est pas parce que ça m'est arrivé, mais moi j'aurais aimé qu'on me le dise, parce que je l'ai vu fonctionner pour d'autres personnes, pas tellement pour moi, mais je vous le dis quand même, c'est que le monde est petit, tout se sait. Et il faut éviter d'avoir des ennemis, et il faut faire en sorte d'avoir beaucoup d'amis. Il faut éviter d'avoir des ennemis parce qu'à un moment, ils peuvent essayer de vous nuire. Et il faut avoir beaucoup d'amis parce que s'il y a des gens qui essayent de vous nuire, eh bien, ils formeront une barrière pour éviter que les gens qui veulent vous nuire ne vous nuisent. Alors c'est un peu bizarre comme propos, mais franchement, si vous l'appliquez, c'est une bonne chose, je vous le conseille. Et c'est rare qu'on le dise.
Stéphane, un petit peu, et après on va aux questions.
Non, un des conseils, les payeurs sont les meilleurs conseillers, donc j'ai pas de conseil à vous donner propre, sinon à Fanny l'a dit, réfléchissez à... J'ai entendu dernièrement que les jeunes cherchaient du sens. Alors, ça m'a un peu étonné parce que, étant jeune, j'ai cherché du sens aussi. Donc, j'ai pas l'impression que ça soit nouveau. Et c'est ce que j'ai fait quand j'étais à votre place. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que Thierry Siebiot, ça a été un de mes professeurs. Donc, je vous invite à, même s'il est plus professeur, à lire ce qu'il écrit. Et moi, ça m'a nourri et ça a donné du sens. Donc, ça m'a permis de partir dans ce que je voulais. Le plus important, c'est de faire quelque chose qui vous motive et dont vous avez envie, parce que vous le ferez mieux. Moi, en l'espèce, sur la partie ESS, donc le sociétal, à l'époque, on était 15%. Donc on était un peu les gauchos ESSEC, mais on était contents et un peu hippies. Mais aujourd'hui, pareil, vous êtes 30%, donc vous êtes déjà deux fois plus nombreux, donc il y a moyen de faire deux fois plus des belles choses. Et de toute façon, il n'y a pas de mauvais endroit pour vous épanouir. Il n'y a pas de... dernièrement, dans un événement, je finirai là-dessus, mais sur un événement ESSEC qu'on a organisé avec le club, Sustainable Business, vous êtes alumni, vous pouvez vous inscrire. J'ai croisé un de vos collègues il y a 2 ans, donc maintenant il doit être en 3e année, qui était venu me voir. Il m'a dit Monsieur Hédon, ce que vous faites, c'est super, donc ça fait toujours plaisir. Moi, je travaillais chez Total, j'ai démissionné. Et je lui ai dit t'as fait une énorme bêtise, quoi. Voilà. Parce que le changement, si ça se passe dedans, voilà. Parce que à sa place, il y a déjà 10 candidats qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs, qui n'ont pas les mêmes envies, les mêmes orientations, et qui feront pas ce qu'il avait envie de faire. Donc, je finirai là-dessus, c'est qu'il n'y aura pas de mauvais endroit où vous êtes à partir du moment où vous participez à ce changement et que vous êtes aligné avec vos propres valeurs. Donc, quel que soit le métier que vous allez choisir, si vous le faites en conscience. Dans votre propre conscience. Et c'est pour ça que j'ai pas de conseil à vous donner, parce que je suis pas le bien et il y a le mal. Si vous faites les choses en alignement avec vos valeurs, vous le ferez bien. Et si vous le faites bien, vous changerez le monde comme vous l'imaginez. D'accord? Donc, restez, soyez résilients, ayez l'humilité des échecs et mettez votre énergie au service de ce qui vous motive, ce qui vous tient par les tripes. Et vous verrez, tous les matins, ça fait plaisir de se lever pour y aller, quoi.
Merci Stéphane. Est-ce qu'on a des questions? On a quelques minutes. Do we have some questions? Yeah. One, two. There was one. Yeah.
Bonjour, merci. Je voulais savoir comment est-ce qu'on va convaincre des grandes entreprises à justement adhérer à ces principes ESG, par exemple des grandes entreprises américaines. Vous avez parlé de Total ou d'autres entreprises.
Alors c'est une très bonne question qui fait un peu lien avec l'exemple que j'ai donné précédemment. Si vous voulez, aujourd'hui, je redis ce que j'ai dit. Je pense que l'histoire est écrite. Ouais. Et donc, même ces grandes entreprises... elles sont déjà dans une transformation, même si c'est une transformation opportuniste. Pourquoi ? Tout simplement, parce qu'a dit Fanny, c'est-à-dire que le sujet climatique et le sujet du risque physique du changement climatique, il est là. Ouais. Donc vous voyez, toutes ces entreprises commencent à pivoter juste parce qu'ils doivent survivre. Donc vous voyez, Total, aujourd'hui, c'est un des plus grands investisseurs pour l'énergie renouvelable. Est-ce qu'il le fait parce qu'il est pro-climat ? C'est pas le sujet du board de Total. Le sujet du board Total, c'est il y a une entreprise qui doit créer de la valeur pour pouvoir se pérenniser. Par contre, ce qu'il sait, c'est que le pétrole ne sera pas pérenne, qu'aujourd'hui, les consommations sont en train de réduire drastiquement. Pourquoi ? Parce que c'est une question de souveraineté. Beaucoup de pays sont en train de se décrocher de ce pétrole pour pouvoir créer une énergie gratuite par le renouvelable, par exemple. Donc, je vous invite à regarder la transformation ces dernières années de l'Allemagne sur le renouvelable. Pourquoi ? Parce qu'elle était dépendante d'un gaz d'un pays tiers qui est devenu un pays à risque pour sa propre économie et qui, aujourd'hui, cherche des solutions connexes pour continuer à mettre de l'énergie. Donc, si vous voulez, pour répondre complètement à votre question, il y a deux manières. Et la première, une manière un peu plus activiste, c'est des gens comme nous, c'est des gens comme vous, et vous êtes au sein de l'entreprise, vous inspirez, vous êtes résilient, vous êtes proposition de valeur, hein, c'est-à-dire un activisme constructif, c'est-à-dire démontrer, par exemple, que d'autres sources de transformation créent plus de valeur qu'un ancien modèle. Donc ça, c'est un problème. Et deuxièmement, vous pouvez aussi, de par l'extérieur, avoir un effet de modèle. Et de toute façon, expliquer l'histoire. Voilà. Et de se dire qu'aujourd'hui, la transformation se fait par un pan qui est simple, c'est la gestion du risque. Hein, c'est facile, hein, vous allez apprendre un truc, c'est que faire de la finance, c'est comme l'immobilier, c'est un truc de flemmard. On crée de la valeur et on gère le risque. Aujourd'hui, le risque fait tellement de bruit, c'est-à-dire les analystes sont en train d'entendre que l'impact physique climatique est probant sur les portefeuilles, qu'aujourd'hui, ils intègrent les transformations, ils intègrent des plans d'action pour protéger ses actifs, pour protéger cette valeur et induire la transformation. Donc vous serez soit un acteur comme un autre, mais cette transformation en cours, soit vous serez, on l'espère, un catalyseur, parce qu'il faut que cette transformation s'accélère, eu égard à ce qu'a dit Fanny, c'est-à-dire qu'on a un peu de retard, c'est-à-dire que le changement climatique va plus vite que notre capacité à. Et ben, à vous d'être des créatifs, à vous d'avoir cette énergie pour continuer, inspirer, pousser les portes et continuer à adapter. Voilà, ce sera plus des efforts d'adaptation à notre vivre ensemble, à ce changement.
Moi, je pense qu'il y a des entreprises, vous parliez d'entreprises américaines. Si il s'agit d'une entreprise américaine dont le principal client est le Pentagone, aujourd'hui, vous ne pourrez pas la faire changer. Il y a des gens que vous ne pourrez pas faire changer. Donc là, on peut les boycotter ou on peut en boycotter d'autres. Il y a un très grand groupe français de luxe dont deux très belles marques ont été attrapées récemment pour avoir utilisé pour avoir eu comme sous-traitants des entreprises qui ont recours à des salariés dans des conditions vraiment épouvantables. Donc quand on vend un sac 3 500 € et qu'on comprend qu'en fait il a été fabriqué par des gens qui habitent dans l'usine, n'ont jamais de vacances, sont très mal payés, etc. C'est un peu choquant. Donc on peut décider de ne plus acheter de sac à main de cette entreprise ou même du groupe. le boycott, ça fonctionne. Et puis, on peut, une fois qu'on a rejoint une entreprise qui a quand même un potentiel pour changer, ce qui peut être le cas de ce groupe, ce qui est le cas, je pense, de ce groupe, par touches différentes les unes après les autres, si vous arrivez au bureau en vélo, c'est un signe, et puis peut-être que ça va donner le signal à d'autres que c'est bien le vélo pour aller au bureau. Si, et puis ensuite, dans vos fonctions, si vous êtes, si vous travaillez au sein de la direction financière, un jour directeur financier, vous pouvez dire c'est un risque pour moi que les sous-traitants ne soient pas approuvés dans leur, les dimensions sociales qui sont les leurs. Et ça fait changer les choses. Donc en fait, ça dépend des situations, mais c'est de montrer par votre comportement, vos pratiques d'achat et vos réflexions que c'est un sujet important pour vous. Ça, c'est pour vous garder en tant que salarié, que vous restiez motivé, et ça va être important pour votre employeur. Et puis, ça va lancer des idées qui vont s'imposer parce qu'elles sont évidentes.
Bonjour, merci pour cette conférence. Vous avez parlé tout à l'heure de la directive Omnibus et donc du démantèlement de la CSRD. Vous ne pensez pas que justement ça risquerait de ralentir la transition en Europe, étant donné que si on ne force pas les entreprises européennes à se pencher sur leur impact sur les questions de stratégie de développement durable et que les entreprises concurrentes étrangères, chinoises ou américaines, elles non plus ne sont pas incitées à le faire? Dans ces cas-là, ces entreprises ne vont juste pas agir, même si elles ont plus de temps pour le faire.
Tu veux que je réponde? Alors, voilà, ça engage à nouveau que moi. Mais, si vous voulez, pour aujourd'hui, à date, sur l'omnibus, ce qu'on voit surtout, c'est des changements de seuil, voilà, de se dire la taille des entreprises et leur chiffre d'affaires. Là-dessus, je vois pas le changement. Dans le sens, vous changez les seuils, mais de toute façon, toutes les parties prenantes, elles sont liées. Donc, même les plus petites entreprises, vous voyez les plus grosses entreprises, elles demandent des reportings à leurs sous-traitants. Donc, si vous voulez, le maillage économique fait que ça ralentit, mais ça n'arrête pas. Donc on va être sur un continuum en disant que les plus grosses entreprises qui ont été capables de s'organiser, parce qu'il faut un peu de ressources humaines pour faire ces reportings, et peut-être le reproche qu'on peut faire, c'est que ces reportings sont ils mériteraient d'être un peu plus pragmatiques et d'aller des fois à l'essentiel, mais bon, donc pour les plus petites entreprises, c'est compliqué de s'aligner, d'avoir la ressource. De toute façon, l'impulsion reste la même, d'accord ? Sur les autres pays, par rapport à la compétitivité ou le changement, à nouveau, je vous invite à regarder ce qui se passe à travers le monde et ne arrêter de penser que... vous voyez, par exemple, l'Europe, si on prend les chemins, les scénarios, nous, ce qui va nous impacter, c'est la chaleur. Alors, on a des températures qui sont en train de monter, c'est un Paris 50 degrés, voilà, les gens chouinent quand il fait 38-40 l'été, 50, vous imaginez à quoi ça va ressembler. Donc d'ores et déjà, il y a la réflexion sur l'adaptation. Mais sur d'autres pays, c'est les inondations. Sur d'autres pays, c'est des tornades. Donc ne croyez pas qu'ailleurs, ça ne change pas et que les entreprises ne cherchent pas aussi à se transformer. Moi, je reste positif et optimiste. Finalement, la nature de la motivation de pourquoi la Chine a aujourd'hui une taxonomie, pourquoi Singapour, qui est quand même un foyer bancaire qui pourrait être un paradis fiscal, elle aussi est en train de transformer et à changer son paradigme. Pourquoi l'Australie est en train d'intégrer des indicateurs financiers dans ses reportings accolés au carbone, quelle que soit la motivation. Partout dans le monde, on est en train de changer ce paradigme et de prendre en compte la transformation. D'accord ? Donc, moi, je reste optimiste. Il faut rester optimiste. Ça va sans doute, j'en suis convaincu, pas assez vite. C'est clair qu'on est dépassé par les événements. Après, entre nous, le changement, il n'y a qu'un seul mec dans le monde qui a cru que le changement, c'était maintenant. Et que ce changement, il faut peut-être un peu de temps. Il faut l'accompagner, il faut l'expliquer, et comme on l'a abordé tout à l'heure dans les questions, je suis convaincu que ça passera par la collaboration et la prise en compte des intermédiaires et des parties prenantes au plus près du terrain. Mais ça, pour que ça se remette en place, pour que ça, qu'il y ait des funnels et que les silos explosent, il faudra un peu de temps. Les directives européennes ont voulu aller trop vite par rapport à ça, en mobilisant et en secouant une façon de faire du business et de l'économie qui fonctionne, mais qui est ancestrale. Et aujourd'hui, pour changer cette dimension, et ben, il faut un peu plus de temps. Donc, restons optimistes. Le monde, dans sa plus grande généralité, n'est pas complètement aveugle et est dans une phase d'adaptation. On pourrait dire hélas, hein, parce qu'avant, on avait le temps d'anticiper et de prévoir un meilleur monde. Il n'en est pas moins que l'adaptation, qui est quand même ce que c'est mieux le faire à l'être humain, est en cours. Il ne reste plus qu'elle s'accélère. Ça nécessite de ce que fait Fanny, c'est-à-dire l'investissement sur l'innovation, sur la juste technologie, et ensuite la redistribution de ces nouvelles compétences, de ce nouveau savoir, pour qu'on puisse aller au mieux. Voilà. Et après, à vous de nous aider pour continuer à redistribuer cette énergie et ce savoir.
Fanny, un dernier mot ?
Oui, merci Stéphane. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Il faut des réglementations pour que les choses avancent. Il faut aller vite, même si je suis d'accord avec Stéphane que la Commission a été trop vite et aussi trop forte, parce que c'est une réglementation qui est très, très demanding quand même, la CSRD. Omnibus, c'est pas à proprement parler un démantèlement. Un des gros sujets, ça va être la question de la transposition en droit interne, parce qu'en fait, vous savez qu'il y a deux catégories de réglementation européenne, des règlements et des directives. Enfin, je sais pas si vous avez étudié ça. Ouais. Et en fait, bon, alors, oui, je vois que vous dites oui. Un des sujets de CSRD, c'est que, à part la France, il n'y a aucun autre grand pays qui a transposé, ni l'Allemagne, ni l'Espagne, ni les Pays-Bas. Les entreprises françaises disent, mais vous êtes sympa avec vos réglementations, mais nous, on doit passer du temps et payer beaucoup d'argent, parce qu'en plus, il faut que ce soit validé par les commissaires aux comptes, et ils en profitent pour nous le facturer très cher. Ça fausse la concurrence avec les autres, avec nos concurrents européens. En plus de fausser la concurrence, enfin de biaiser la concurrence avec les concurrents non européens. En conclusion, en tout cas, oui, il faut de la réglementation. Oui, il faut que les entreprises s'adaptent. Est-ce que CSRD est allé trop loin ? Franchement, je trouve que oui, aussi.
Merci Fanny, merci Stéphane pour partager vos expériences avec nos étudiants ce soir.